Régulièrement à la maison, comme je suppose dans beaucoup de vos familles, on joue avec les enfants. Je pense qu'il y en a deux, trois qui jouent avec leurs enfants. Oui, petits-enfants aussi. Ok. Non, ok, bah, c'est un truc qu'il faut faire. C'est sympa, on joue avec les enfants, les petits-enfants, c'est bien de le faire. Et souvent, bah, comme vous le savez, moi, les enfants sont très jeunes, donc ils aiment bien jouer à cache-cache. Leur cache-cache. Hein, bon. Donc, par exemple, c'est Yael, ma plus grande, qui va aller compter. Hein, elle a 4 ans maintenant. Donc elle compte jusqu'à 10 à peu près. Puis quand elle a fini de compter, bah, elle demande où je suis caché, pour être sûr que ce soit plus difficile. Donc obligé, bah, on doit lui dire où on est. Avec mon deuxième, on se cache, hein, Joas. Puis elle arrive, elle nous trouve, puis c'est Daddy qui doit aller compter. Et à chaque fois, bah, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai fini de compter, je n'ai pas besoin d'aller voir à beaucoup d'endroits. Je sais qu'ils sont exactement à l'endroit où je m'étais caché avant. C'est comme ça. Et puis alors, si jamais je joue à cache-cache avec ma plus petite, Anna, c'est encore plus simple. Anna, elle se cache, elle est cachée. Voilà, c'est réglé. Mais elle est difficile à trouver. Hein. Vous voyez, des cachettes, ils en ont, mais elles ne sont pas terribles. Et vous savez, régulièrement, nous aussi, dans notre vie, on essaye un peu de se cacher, mais pas de façon terrible. Et en réalité, l'humanité tout entière, elle essaye de se cacher. Mais ce n'est pas terrible non plus. Et c'est un petit peu la même chose que nos enfants. Ils se cachent, mais pas de façon terrible. Et c'est un peu ce dont le texte que j'ai choisi de prendre aujourd'hui avec vous va parler. Le texte qui va nous guider, c'est dans l'Épître aux Romains. Dans l'Épître aux Romains, on trouve un texte qui va nous parler de se cacher de devant Dieu. Et on va aller dans le chapitre 2 de Romains, et on regardera au verset 12 à 24. Romains 2, chapitre 2. Romains, chapitre 2, versets 12 à 24. On est dans la grande section de Romains, les chapitres 1 à 3, où Dieu déclare que toute l'humanité est pécheresse et sous le jugement de Dieu. Et ici, il va nous décrire un petit peu, bah tiens, quelle cachette est-ce que l'être humain pourrait vouloir utiliser? Ou si je prends une autre illustration, quelle carte est-ce qu'on voudrait mettre devant Dieu? Ici, je le rappelle, il n'est pas en train de parler de chrétiens dans ces chapitres-là. Il parle de personnes qui n'appartiennent pas à Jésus-Christ. Mais c'est important. Et dans la lecture, je vais vous demander d'essayer de voir quelle carte est-ce que l'humanité pourrait essayer de mettre devant Dieu pour un petit peu se justifier. Pour dire, ben en fait, moi je ne suis pas sous ton jugement. Quelle carte est-ce qu'on pourrait vouloir avancer? Et ici, on va en avoir trois qui vont être avancées. Je vous propose de lire Romains 2, chapitre... Décidément. Romains, chapitre 2, versets 12 à 24, qui nous dit ceci. « Car tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Mais tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. » En effet, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, car leur conscience en rend témoignage et leurs pensées les accusent ou les défendent tour à tour. C'est ce qui paraîtra le jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Or, si toi, tu portes le nom de juif et que tu te reposes entièrement sur la loi et que tu te glorifies en Dieu et que tu connaisses la volonté et que tu saches discerner les choses excellentes étant instruit par la loi et que tu crois que tu es conducteur d'aveugles, lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, instructeur d'hommes dépourvus d'intelligence, le maître des ignorants parce que tu possèdes dans la loi l'expression parfaite de la connaissance et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, ne t'enseignes-tu pas toi-même? Toi qui prêches qu'on ne doit pas dérober, dérobes-tu? Toi qui dis qu'on ne doit pas commettre adultère, commets-tu adultère? Toi qui en abomination les idoles, commets-tu des sacrilèges? Toi qui te glorifies en la loi, déshonores-tu Dieu par la transgression de la loi? car le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations à cause de vous, comme cela est écrit. » Ça, c'est le passage qui va nous guider aujourd'hui dans notre lecture. Et j'espère que vous avez pu voir certaines des cartes que l'apôtre Paul lance. Il y a certaines cartes que l'humanité veut mettre devant Dieu pour lui dire « Ben non, en fait, pas moi. » J'espère que vous avez pu voir ces cachettes, ces cartes. Et dans ce passage, on peut en voir plusieurs. J'ai choisi d'en mettre trois devant nous aujourd'hui. La première, c'est qu'on pourrait vouloir utiliser l'ignorance. On pourrait vouloir utiliser cette carte-là. Ou encore la carte de la sincérité. On pourrait vouloir l'utiliser aussi. Ou encore celle de la connaissance. Ces trois cartes-là, on pourrait vouloir les utiliser devant Dieu. Et on va voir en quelle mesure. On va voir ensemble ces cartes, ces cachettes. Il n'y a pas longtemps à l'église, enfin tous les ans, on fait un repas spécial qu'on appelle boulette belote. C'est un repas où beaucoup de membres de l'assemblée viennent, ils invitent aussi des non-croyants, et on partage un repas boulette et frites, et après on a un concours de belote. Et là on joue les cartes, on discute un petit peu, ça nous permet de partager un petit peu de l'évangile avec les personnes qui viennent dans l'église comme ça. Et moi, j'étais avec mon meilleur ami, on était en duo hein, pour la belote, et il joue, mais voilà, il joue. Et plusieurs fois, il me fait « Tim, je ne sais pas du tout quoi jouer, je mets ça au hasard. » Et c'est un petit peu parfois ce que l'humanité, elle fait. Elle prend une carte au hasard et elle se dit que peut-être ça va marcher. Et on va voir si ces cartes, elles vont marcher aujourd'hui. Il commence dans le texte par préciser que le jugement de Dieu, il est juste. Il nous dit « Voilà, ceux qui ont péché sans la loi, périront sans la loi, sans la connaissance de la loi. Mais ils seront jugés par rapport à cela. » Et puis il nous dit, ceux qui connaissent bien la loi seront jugés par la loi. Dieu ici, il nous montre à quel point il est juste dans son jugement. Il nous dit, ceux qui ont reçu la loi, qui connaissent ce que Dieu demande, Dieu les jugera en fonction de ce qu'ils savent. Mais si certains n'ont pas reçu la loi, Dieu va les juger sur la base de la loi qui est inscrite dans leur conscience. Il ne va pas les juger sur quelque chose qu'ils ne pouvaient pas savoir. Non, pas du tout. Mais il va quand même les juger. Dieu montre par là qu'il est juste. Il ne demande pas des comptes à quelqu'un qui ne connaissait pas, sur la base de quelque chose qu'il ne connaît pas. Il demande des comptes sur ce qui lui a été révélé. Ce qui nous montre ici que ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas ou que l'on connaît que Dieu peut ou ne peut pas nous demander des comptes. Dans tous les cas, Dieu peut demander des comptes et il sera juste parce que Dieu prendra en compte ce qu'il t'a révélé. C'est pas parce qu'on ne connaît pas la loi de Dieu qu'on est excusé, c'est pas parce qu'on ne connaît pas l'évangile qu'on est excusé. Non, Dieu le dit, on sera jugé sur la base de ce qu'on le connaît, pas sur la base de ce qu'on ne connaît pas. Mais il demeure une chose, on sera jugé. Certains en auront connaissance, d'autres pas, et Dieu jugera en fonction. Il n'y a pas longtemps, un de mes amis, mon beau-frère, conduisait sa remorque, et elle était pleine à craquer. Et il conduisait tranquillement, il allait au parc à conteneurs, et il n'avait pas mis de filet. Parce que, bon, je ne sais pas si vous vous en mettez souvent, mais moi ça m'arrive rarement. Et puis à un moment, il voit dans son rétro des amis sympathiques, en bleu, qui lui demandent de se mettre sur le bas-côté. Donc, il se met sur le bas-côté, et il ouvre le carreau, il lui dit « Monsieur, vous savez pourquoi on vous arrête ?»« Ah ben non, je ne sais pas. » Ils lui disent « Ben voilà, monsieur, vous roulez avec une remorque et vous n'avez pas de filet pour protéger. »« Ah bon, je ne savais pas. » Et lui ont dit ben, « Ah ben ça va, vous ne saviez pas, donc c'est bon, vous pouvez y aller, continuez. » Non. Ils lui ont dit ben, « C'est bien pour vous que vous ne saviez pas, mais ça c'est la loi. Et vous devez avoir un filet quand vous roulez. C'est comme ça. » L'ignorance n'est pas une excuse. Imaginez un instant, vous les plus jeunes de l'Assemblée, quand vous allez rentrer lundi à l'école, vous rentrez en classe, c'est peut-être maths ou français ou que sais-je. Hein. Et là, le prof ouvre la séance et il dit « Ben voilà, comme c'était annoncé, on va faire interro aujourd'hui. » Et vous levez et vous dites « Ah monsieur, moi je ne le savais pas. » « Ah ben, ça va, alors tu ne feras pas l'interro. » Mais non, non, l'ignorance ne te sauvera pas. Ce n'est pas parce que tu ignores quelque chose que c'est une excuse en soi. Pas du tout. Ce n'est pas une carte qui va fonctionner. ignorer les choses, ça ne fonctionnera pas. Et devant Dieu, ça ne fonctionnera pas non plus. Ce n'est pas une excuse. Une chose que je trouvais vraiment intéressante dans ces versets, c'est ici, comme Dieu nous le dit, il va juger de façon juste toute personne. Ceux qui ont connaissance de la loi, il les jugera en fonction de cela. Ceux qui n'en ont pas, il les jugera en fonction de cela. Mais ça, ça veut dire une chose. Tout le monde ne connaîtra pas l'Évangile, mais tout le monde sera jugé. Ce qui montre que Dieu n'a aucun devoir de mettre chaque personne devant l'Évangile. C'est assez étonnant, mais pour nous, en tout cas, en tant que chrétiens, on a l'impression que Dieu doit quelque part donner la possibilité à tout le monde d'entendre l'Évangile et d'y répondre. Mais si Dieu ne dit pas ça, il dit que tout le monde sera jugé, ça oui, et que certains entendront et que d'autres pas. Voilà ce qu'il dit. Il n'est pas du devoir de Dieu. En réalité, entendre l'Évangile, c'est une grâce. Entendre comme recevoir, c'est une grâce. Et on devrait être émerveillé à chaque fois qu'on a l'opportunité de l'entendre. C'est quelque chose de glorieux. Mais c'est une grâce, ce n'est pas un devoir de la part de Dieu. Bien sûr, pour nous, c'est un devoir de partager l'Évangile. Mais Dieu n'est pas injuste si quelqu'un n'entend pas l'Évangile. Pas du tout. C'est une grâce que de l'entendre. Vous savez, ça prend des tournants très pratiques, cela. Moi, j'entends régulièrement des personnes qui, bon, quand je les arrête dans la rue ou quelque chose comme ça, et qu'on partage l'Évangile, ils me disent, mais tu sais, moi, je m'en fiche un petit peu là maintenant. De toute façon, quand je vais arriver devant Dieu, eh ben, je sais bien ce qui va se passer. Il va me donner l'Évangile, et là, je pourrais choisir. Non, non, en fait. Dieu n'a pas le devoir de nous mettre devant l'Évangile. C'est une grâce que de l'être devant. C'est une grâce. Et comme la Bible le dit, il est donné à l'homme de mourir une fois, une seule fois, et après quoi vient le jugement. Pas après quoi Dieu te donnera la possibilité de... Non. Entendre l'Évangile, c'est une grâce. Et ça a aussi une autre portée pratique pour nous. Quand on appartient à Jésus-Christ, quand on va dans les églises, quand on va dans les conférences, on entend et on réentend l'Évangile. On l'entend une fois, deux fois, 15 fois, 100 fois, peut-être pour vous les plus âgés dans la foi, 1000 fois. Peut-être vous l'avez entendu énormément de fois. Et peut-être qu'à un certain moment, ça devient un peu barbant. Qu'on se dit, ben, encore une fois, tu ne veux pas nous donner quelque chose d'autre. Ça peut arriver qu'on entende ça. Mais ici, rappelons-nous d'une chose. Entendre l'Évangile, c'est une grâce. Et à chaque fois qu'on l'entend, on devrait simplement être en pleine reconnaissance devant notre Dieu, parce qu'on a encore une fois l'occasion d'entendre cet Évangile. C'est quelque chose de glorieux, c'est pas quelque chose de barbant, c'est une grâce que de l'entendre. Alors je prie, et j'espère que tu le remercies à chaque fois que tu entends l'Évangile. Pas seulement que tu es en train de dire, ah tiens, il faudrait qu'un tel l'entende aujourd'hui. Il faudrait que... Non, non, mais... Toi, est-ce que tu es en train de remercier ton Dieu parce qu'encore une fois, il te met devant son Évangile? J'espère que c'est le cas. Il est clair, et Paul le démontre, que la carte de l'ignorance n'aura aucun effet devant Dieu. Elle n'aura aucun effet. Maintenant, vous dites peut-être, ben, peut-être que la carte de la sincérité va avoir de l'effet. Et c'est ce que Paul nous propose. Le passage, il continue et il nous dit « Ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui seront justifiés, mais c'est ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » D'abord ici, un nœud important à défaire. On pourrait penser avec ce verset-là que, vu que c'est ceux qui mettent en pratique qui seront justifiés, qui seront sauvés, alors ce qui importe, c'est ce qu'on fait, les œuvres. On pourrait penser, sur la base de ce verset, « Tiens, alors on va être sauvés par les œuvres. » C'est un peu étrange, non? On a des petites alertes qui rentrent dans notre cerveau. On connaît quand même un petit peu la parole. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Il faut prendre en compte le contexte ici. Il nous dit, le but de la loi, c'est de montrer qu'on ne pourra jamais atteindre par nous-mêmes l'exigence de la loi. Ça, c'est le but ultime de la loi. C'est le but ultime. Le but ultime de la loi, elle est donnée pour qu'on puisse voir et dire, jamais je ne saurais l'atteindre. J'ai besoin de quelqu'un qui remplisse les conditions. Ça, c'est l'application ultime de la loi. C'est de dire, j'ai besoin de mettre ma confiance en quelqu'un d'autre. Ici, Paul, il dit, celui qui atteint le but ultime de la loi, qui met sa confiance dans un autre qui, lui, va atteindre les exigences de la loi, sera justifié. Il n'est pas en train de dire, allez-y, devenez parfait et vous serez justifié. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, rendez-vous compte de ce que la loi annonce. La loi, elle dit que vous ne saurez pas atteindre ses exigences. Mettez votre confiance en un autre, et celui-là, vous le connaissez, c'est Jésus-Christ, qui lui atteint les standards, et là, vous serez justifié. Là, et uniquement là. Donc ici, Paul n'est pas en train de dire qu'il y a une deuxième voie de salut, pas du tout. Il annonce la même voie, mais simplement avec des termes différents. C'est la même chose. Maintenant qu'on a démêlé un petit peu ce nœud, on peut dire, ok, c'est la même chose que le reste de la parole, on est sur la même chose, c'est tout à fait vrai. C'est le fait de s'abandonner à Jésus-Christ qui sauve. Et ce sera toujours la même chose. Dieu ne change pas. Ça, c'est quand même un grand secours pour nous. Imaginez un petit peu, hein, s'il venait changer, on serait un peu mal. Hein heureux qu'on a Christ. Mais Christ nous donne sa justice. Ce n'est pas juste qu'il meurt pour nous, mais il nous donne sa justice. C'est ça qui nous justifie. Et là, on est suffisant dans les yeux de Dieu, parce qu'on est en Christ. On pourrait conclure de la même façon, alors que ce passage, si on comprenait de cette façon-là, ben qu'il annonce qu'il y a un salut hors de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas ce qu'il annonce. Il annonce Christ de façon déguisée ici. C'est toujours Christ. On est dans la section où il condamne l'humanité. Christ, il va le faire éclater dès le chapitre 4, et même à la fin du chapitre 3. Et quelque part, il nous dit, attendez un petit peu, d'abord je le déguise. Un peu comme le carnaval. C'est un peu comme ça. On est dans les moments du carnaval, et bien il est en train de dire, je vais un peu déguiser Christ, et au moment opportun, je le fais éclater, et là vous verrez toute sa merveille. Toute sa merveille. La Bible est très claire. Il n'y a de salut en aucun autre. Acte 4, 12. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné, celui de Jésus-Christ. C'est le seul. Il dit que les païens qui n'ont pas la loi, pourtant, vont la pratiquer parce qu'elle est inscrite dans leur conscience. Pas de façon parfaite, qu'on soit bien clair. Mais ils vont pratiquer certaines parties de la loi de par le fait qu'elle est inscrite dans leur conscience. Ici, il ne nous dit pas, c'est pas parce qu'un païen est fidèle à ce que sa conscience lui dicte, qu'il est sincère à ce que sa conscience lui dicte, ou que il va faire simplement cela, qu'il va être justifié. Il ne dit pas ça, Paul. Hein. Il ne dit pas, parce que tu as été un païen fidèle, tu vas être sauvé. Il ne dit pas ça. Hein. Il dit quoi ? C'est pas parce qu'un juif ayant la loi a été sincère, fidèle dans l'exercice de la loi, qu'il va être justifié. Il ne dit pas ça non plus. Hein. Il dit que c'est la mise en pratique de la loi qui justifiera. C'est le fait d'avoir abandonné sa vie à un autre qui justifie. Or, la seule solution pour être justifié, pour échapper au jugement de Dieu, vous pouvez me le dire, c'est qui ? C'est pas vos petits-enfants comme au début, c'est Christ. Vous le savez bien, mais c'est parce qu'il y avait un petit bruit de fond. Il n'y a que Christ qui justifie. Il n'y a que lui. C'est pas le fait d'être sincère qui va justifier. Pas du tout. Il n'y a que Christ. Vous savez, dans quasiment toutes les autres religions, dans toutes, il y a une case un peu spéciale. C'est vrai notamment dans le catholicisme, dans l'islam, dans toutes les religions quasiment. Il y a une case spéciale, à part dans le protestantisme. Il n'y en a pas. Mais dans toutes celles-là, il y a une case spéciale qui dit ceci. Par exemple, si j'étais un prêtre catholique, je pourrais dire que voilà, si un protestant est sincère dans sa foi, qu'il vit sa foi comme sa religion lui demande, eh bien alors il sera sauvé. Pas parce qu'il a été un bon catholique, pas parce que j'ai été un bon musulman, un bon hindou, non. Parce que j'ai été sincère. Ça, c'est ce que beaucoup de religions enseignent. Il y a une case un peu spéciale. Cette case que, au final, si tu as été sincère dans ta foi, tu seras sauvé, il n'y a pas de souci, parce que c'est ça qui compte. On n'est pas sauvé parce qu'on est fidèle ou sincère, hein, qu'on soit bien clair. Si on devait être sauvé parce qu'on est fidèle, mes amis, je ne pense pas qu'il y en aurait beaucoup qui pourraient dire « on se voit là-haut ». On est sauvé parce que Christ est juste Christ. Ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de ma fidélité, ça ne dépend pas de ma sincérité. Ça dépend de Christ et ça dépendra toujours de Christ. La sincérité, elle ne change rien. Ce n'est pas parce que je dis à ma femme « tu sais chérie, je t'ai trompé, mais j'étais sincère !» que ça change quoi que ce soit. Hein. Ce n'est pas pour autant que je suis pardonné. Hein. Ce n'est pas parce que ça ne devient pas acceptable. Pas du tout. Ce n'est pas parce que sincèrement j'ai été grossier envers mes enfants que c'est bien. Ce n'est pas parce que sincèrement je suis à côté de la plaque que ça devient bon. Ça n'a rien à voir. La sincérité, ce n'est pas une assurance tout risque. Être sincère dans mon péché, ça fait quand même que je suis dans mon péché. Que j'y sois sincère ou pas, hein, on s'en fiche. Complètement. Vous avez peut-être des amis, des connaissances, qui sont musulmanes, catholiques, hindous, athées, ou que sais-je. Je vous inviterai à ne jamais leur laisser penser que s'ils sont un bon hindou, un bon musulman, que ça ira. Parce que là, vous leur annoncez un faux évangile. La Bible ne dit jamais que je vais être sauvé en raison de ma sincérité. Je vais être sauvé si je suis en Christ. C'est tout ce qu'elle dit. Et si vous avez ces amis-là, surtout, prenez toutes les occasions pour leur dire que c'est Christ et uniquement Christ. Il n'y a pas d'autre voie. Il n'y en a pas d'autre. Soyons courageux, osons parler autour de nous. Parfois ça fait peur, on se dit « tiens, comment est-ce qu'ils vont le prendre ?» Mais qu'est-ce que vous préférez ? Les voir pendant l'éternité de l'autre côté, parce qu'ils ont été sincères dans leur foi et que c'était bien pour eux ? Ou passer l'éternité avec eux, parce qu'ils ont compris que seul Christ sauve ? Faut oser être courageux. Dieu, à travers sa parole, nous montre que la carte de l'ignorance, elle est nulle. Elle est nulle. La carte de l'insincérité, c'est la même chose. Elle ne sert à rien. Peut-être on peut se dire, tiens, il y a quand même une chose qui pourrait être quand même importante, la connaissance. La connaissance, c'est important, il faut connaître certaines choses. Et on pourrait se dire, tiens, cette carte-là, est-ce que on peut la jouer peut-être devant Dieu ? Il leur dit, voilà, toi, tu portes le nom de juif. Tu te reposes entièrement sur la loi. Tu connais la volonté de la loi. Tu sais discerner les choses excellentes. Tu es instruit dans la loi. Tu crois être le conducteur des aveugles. Lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. Hein, quand il parle de tous ces beaux qualificatifs, il parle des païens, hein, si jamais. Instructeur des hommes dépourvus d'intelligence, maître des ignorants. Ça fait bien sur une carte de visite, hein, tout ça. Ici, on a changé quelque peu de section, on est passé aux juifs, avant il parlait des païens. Mais ça parle des juifs qui ont de la connaissance. Ils connaissent la loi. Et ça, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose qu'on peut faire valoir devant Dieu. Moi, j'ai lu ma Bible 3 fois. C'est sûr que moi, quand je vais mourir, je prends l'ascenseur et pas l'escalier. Ça, je vous le dis. Ils ont de la connaissance. Mais est-ce que cette connaissance de Dieu, sur Dieu, est suffisante pour leur permettre de ne plus pécher ? Qu'est-ce que l'apôtre dit ? Il leur pose des questions. Toi, tu prêches de ne pas dérober. Tu sais que c'est mal, c'est ce que la loi dit. Est-ce que tu ne dérobes pas, toi ? Toi, tu dis qu'il ne faut pas être adultère. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu dis que les idoles, c'est mal. Mais pourtant, tu commets des sacrilèges. Est-ce que le simple fait d'avoir de la connaissance permet de ne plus pécher ? Non. Non, la connaissance n'y change rien. Ce n'est pas la connaissance, le fait de savoir des choses sur Dieu qui sauve de son jugement. Pas du tout. Vous savez, il y a énormément de monde ici-bas qui connaissent mieux la parole que vous et moi réunis. Il y a énormément de personnes qui ont lu plus la parole que vous et moi réunis. et qui pourtant ne lui appartiennent pas. Vous savez, les chiffres sont assez effarants. Hein ? Il y a plus de non-croyants qui ont lu la Bible en totalité que de croyants qui l'ont lu. Ça, ce sont les chiffres. C'est assez fou. Hein ? Et pourtant, ils ont une plus grande connaissance du coup. Et pourtant, ce n'est pas le fait d'avoir une tête pleine qui rend vie à un cœur mort. La connaissance ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est de s'être agenouillé devant Jésus-Christ, d'avoir reconnu sa place et de s'être totalement abandonné à lui. Ça, c'est ce qui sauve. Et ça, le plus petit enfant peut le faire. La personne la plus bête sur terre peut le faire. L'homme le plus âgé sur terre peut le faire. Tout le monde peut le faire. La connaissance ne sauve pas. C'est Christ. Quand j'étais à l'Institut biblique, j'avais plusieurs amis et l'un d'entre eux, c'était vraiment une tête. Vous lui parliez de n'importe qui, de n'importe quoi, il savait de quoi on parlait. Vous pouviez lui sortir n'importe quel philosophe, il pouvait vous ressortir sa philosophie, pourquoi il était d'accord, pas d'accord. Il savait le faire. Il savait faire ça. C'était une tête, ce mec-là. Il connaissait tout sur tout. Il était impressionnant par sa connaissance. Mais à l'heure actuelle, il a renié la foi. Et il appartient à un autre courant hérétique. Parce que la connaissance ne sauve pas. C'est Christ. Ça ne veut pas dire que la connaissance est mal, qu'on soit bien clair. Une fois que le cœur a été transformé, que le cœur a été changé, on veut en apprendre plus sur Jésus-Christ, sur celui qui a fait vivre notre cœur. Mais ce n'est pas la connaissance qui va sauver. Est-ce que la connaissance biblique est utile dans la foi ? Oui, oui, amen. Est-ce que la connaissance biblique nous aide à lutter contre le péché ? Oui, mais elle ne nous sauvera jamais. C'est Christ qui sauve. Et c'est important de le réaliser. Peut-être que vous, vous êtes chrétien, que vous avez abandonné votre vie à Jésus-Christ. Mais comment est-ce qu'on le transmet, par exemple, à nos enfants ou petits-enfants ? Est-ce que quand vous prenez un temps avec eux avant peut-être de les mettre au lit ou que sais-je, l'important c'est qu'ils connaissent les histoires de la Bible ou c'est qu'ils voient Christ à travers cela ? Qu'est-ce qui est important ? Est-ce que c'est juste qu'ils puissent dire ben, « celui qui a été dans le ventre du poisson, c'est Jonas ? Celui qui a été dans la fosse, c'est Daniel ? » Ou est-ce que c'est plus important qu'ils puissent dire « celui qui sauve, c'est Jésus ?» Qu'est-ce qui est le plus important ? Et parfois, en tant que parent, on s'enorgueillit. Hein. « Ah, mon enfant, il sait dire que ça, c'était sous ce roi-là. » Vous imaginez quand même ? Mais est-ce qu'il peut dire « c'est Jésus, c'est Jésus ?» Ça, c'est le plus important. C'est Jésus. Il y a encore autre chose par rapport à la connaissance. La connaissance ne leur permet pas de ne plus pécher. C'est ce qu'il dit, Paul. La simple connaissance, en plus, et ça c'est assez fou, ne leur permet pas d'avoir un témoignage enviable et délectable. Il leur dit, vous, vous avez tout cela, vous connaissez la parole. Un bon juif à l'époque, il connaît tout l'Ancien Testament par cœur. Par cœur. Ils ont de la connaissance. Ils peuvent vous dire exactement où ça se trouve. Ils vont vous réciter tout le livre de Deutéronome, par cœur, sans aucun problème. Ils connaissent. Mais Dieu leur dit, votre connaissance, ok, mais votre témoignage, il est pourri. À tel point qu'on blasphème mon nom à cause de vous. Pourtant, ils le connaissent. Hein ? Ils connaissent ce que l'Ancien Testament dit. Mais ils ne connaissent pas celui dont ils parlent. Ça, non. Ils avaient une bonne opinion d'eux-mêmes. Mais leurs voisins les voyaient pour ce qu'ils étaient réellement. Et ça ne leur donnait certainement pas envie de connaître leur Dieu. C'est triste. C'est triste. Si on gratte, ça peut aussi nous amener à nous. Est-ce que le monde hindou, musulman, regarde le monde chrétien, occidental, et se dit « Qu'est-ce que j'aimerais avoir la même éthique ? Qu'est-ce que j'aimerais vivre les mêmes choses ?» Est-ce que vous pensez qu'ils réfléchissent de cette façon-là ? Est-ce qu'ils sont intéressés par le christianisme ? Est-ce qu'on interpelle autour de nous en tant qu'Église ? ou pas. Pas parce qu'on est sympa ou souriant, mais par notre piété, ce qui est différent. Est-ce que vous et moi, on interpelle par une vie transformée? Ou est-ce qu'on transmet juste de la connaissance? Qu'est-ce qu'on transmet autour de nous? Qu'est-ce qu'on transmet? C'est important. Qu'est-ce que mon voisin dirait de mon comportement vis-à-vis de ce que je lui prêche? Qu'est-ce qu'il pourrait dire? Oh, on n'est pas parfait, hein, qu'on soit bien clair. Il y aura de la dissonance dans nos discours par rapport à ce qu'on vit. Mais est-ce que la ligne générale, elle va vers le haut? Ou est-ce que la ligne générale, elle est complètement à côté? Vers quoi est-ce qu'on est? Est-ce que ce que je dis est imparfaitement vécu ou pas vécu du tout? C'est important. C'est important parce que ça révèle aussi qu'il y a la puissance en moi ou pas. Parce qu'une des vérités, c'est que, oui, le salut, la foi sauve seule, comme le dirait Luther, mais la foi qui seule sauve ne vient jamais seule. C'est important. Est-ce qu'il y a la puissance de résurrection qui vit en nous, qui nous permet d'avoir une vie transformée? Qu'est-ce que ta femme, ma femme, dirait de mon comportement à la maison quand les volets sont fermés? Est-ce que je suis le même? Bon, je suis peut-être un petit peu moins bien, mais quand même dans la bonne direction, ou pas? Quels sont les comportements que mes enfants imitent de moi? C'est important. Qu'est-ce qu'ils imitent? Est-ce que ma vie de chrétien, c'est juste de la connaissance et uniquement une série de vérités qu'on croit plus ou moins? Ou est-ce que c'est la base d'une vie chrétienne transformée? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a eu une rencontre avec Jésus-Christ, un abandon et une relation qui grandit en intimité avec lui? Parce que ça, c'est délectable. Vous savez, vivre une vie avec juste de la connaissance, c'est nul. C'est une vie nulle. Par contre, vivre une vie avec Christ comme centre et pilier, là, c'est délectable. Là, c'est autre chose. Vous savez, c'est un peu comme vous êtes marié et puis plus jamais de votre vie, vous ne vous voyez. Ça, c'est de la connaissance. C'est nul. C'est nul. Mais être marié avec son épouse, vivre chaque instant avec elle, ça, c'est une vie d'intimité avec Christ. On apprend à le connaître ou on s'émerveille de ses bienfaits. On le voit un peu plus chaque jour tel qu'il est. De façon claire, la connaissance ne sauvera pas. Si vous pensez que c'est ça qui va vous sauver, ce ne sera pas le cas. Le seul qui sauve, et ce sera toujours lui, c'est Christ, 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 Christ et encore Christ. Il n'y en aura pas d'autre. Vous savez, ce n'est pas parce que je sais que Lionel Messi joue à l'Inter Miami, qu'il a gagné la Coupe du Monde, qu'il a été joueur du FC Barcelone, qu'il a été joueur à Paris, qu'il est un super joueur, que je le connais réellement. J'ai juste de la connaissance sur Messi. C'est tout. Je ne connais pas Messi. Mais de façon encore plus importante, est-ce que vous avez juste de la connaissance sur le Messie, ou est-ce que vous connaissez le Messie? Est-ce que tu connais Christ ou est-ce que tu connais des choses de Christ? C'est important. La seule carte à jouer, la seule qui aura de l'importance, la Mastercard, le Joker, c'est Christ. C'est la seule qui vous fera rafler la mise. La seule, c'est Christ et toujours Christ. Vous pouvez tester l'ignorance, mais ça ne vous sauvera pas. Vous pouvez tester la sincérité, ça n'aura aucun effet. La connaissance, encore moins. Parce que la Bible est claire, elle nous dit qu'au plus on en connaît, au plus il nous sera demandé. Alors, une seule chose, Christ, Christ et toujours Christ.